C'est un tellement petit livre que c'est pas difficile d'écrire une page du rock français.
Salut, soir à tous, merci d'être à l'écoute d'Aligre FM 93.1. L'émission s'appelle French Up. C'est Ludovic qui vous propose aujourd'hui une interview de Théo Acola. Théo Acola, un personnage très important dans le rock français. C'est un Américain qui a posé ses valises en France en 1978. Il a réalisé deux albums d'une couleur très cold wave, comme on dirait aujourd'hui, avec un groupe qui s'appelle Orchestre Rouge. Je crois qu'il n'est pas forcément très fier de ses deux premiers albums. Ensuite, il a connu une jolie carrière avec un groupe qui s'appelait Passion Fodder, qui était signé chez Barclay. Il a eu l'honneur, et je pense qu'il a été un des premiers à découvrir Noir Désir. Il a produit leur premier EP, c'est ce qu'on entend en fond sonore. Et puis une carrière solo qui se poursuit et qui se concrétise aujourd'hui avec un album qui s'appelle Drunk Woman and Sexual Water. Je vous le recommande. Il considère comme son meilleur album et je suis assez d'accord avec lui. Et on a le droit d'être d'accord avec lui. Voilà, un très très joli disque. On va en écouter de très larges extraits aujourd'hui. Voilà, on va écouter tout de suite les débuts, les tout débuts de Théo Acola au sein d'Orchestre Rouge. Et puis on va faire un survol très rapide de sa carrière. Voilà, une heure avec Théo Acola dans French Up, c'est tout de suite.
Après la fin de Passion Fodder et la fin de mon histoire avec Barclay, et quand j'ai fait mon premier album solo chez Bondage, on m'a dit « Ah, oh, c'est chouette, ça va être bien d'avoir tant de liberté maintenant que tu es chez une maison indépendante. » Et je riais, enfin j'ai trouvé ça absurde. C'est un lieu commun que beaucoup de gens porte qui est totalement injuste. Barclay ne pouvait pas changer une note ou une idée. Il donnait leur avis, puisque c'était des amis à l'époque. Et leur avis, certains parmi eux, leur avis comptait un peu pour moi. Mais ils n'avaient aucun pouvoir de toucher ni à la pochette, ni à l'ordre des morceaux, ni à quoi que ce soit de notre musique, de mes textes.
Il n'y a pas eu de changement radical dans la musique?
Non, il y avait moins d'indépendance, parce qu'avec Barclay, j'avais plus de confort de faire ce que je voulais et de prendre le temps qu'il fallait pour enregistrer. Par la suite, non. Comme aujourd'hui, j'ai moins d'indépendance, moins de liberté, puisque j'ai nettement moins de moyens. Et pareil avec Orchestre Rouge. Moi, je trouve surtout le premier album mauvais, mais c'est aucunement la faute de la maison de disques, c'est nous. Et s'il y avait Martin Hannett comme producteur de premier, c'est parce que je l'ai appelé et que j'avais un budget qui nous permettait de payer un réalisateur vedette anglais. C'était un peu mon école et je pense qu'il a mal travaillé et que nous, on n'était pas si bien que ça. Je crois que le groupe était très bien sur scène. Donc si c'était mauvais ou pas mauvais, c'était vraiment grâce ou à cause de nous. Ouais. Et pas rien à voir avec les maisons de disques. Maisons de disques nous donnaient du confort. Et c'est ça qui me manque. Ce que j'avais dans les années 80, c'était le confort de bien travailler, bien enregistrer. Même si je n'ai jamais fait de disque qui a gagné l'argent. J'ai fait 12 albums, aucun de mes disques n'a jamais gagné de l'argent pour une maison de disques. Donc je trouve ça normal au bout d'un moment qu'ils arrêtent d'investir en moi aussi, étant donné ceci. C'est tragique un peu artistiquement pour moi, mais c'est complètement normal de ne pas donner l'argent quand c'est complètement perdant.
Concernant, t'es arrivé en France, je sais pas exactement pourquoi t'as posé tes bagages en France, parce que c'est un peu ça qui s'est passé. C'était au cours d'un espèce de périple en Europe. C'est ça, c'était vers 78, t'as posé tes bagages en France. C'est comme ça que ça s'est passé?
Non, je suis venu tout droit. J'avais vécu avant à Londres et un peu en Espagne. Et j'ai passé 2 mois en Mexique et j'ai pas mal été dans plusieurs villes américaines. Mais quand je suis venu à Paris, c'était tout droit de New York avec l'idée de vivre un moment à Paris. C'était pas au cours d'un voyage. D'accord. Donc l'idée était de venir passer du temps dans un autre pays étranger, apprendre le français et au bout d'un an et faire du journalisme, chose que je faisais et que je faisais pas très bien, dirais-je. Je pense que le résultat était pas mal, mais je le suis trop long.
Laborieux. Alors,
je trouvais que les nuits blanches que j'étais obligé de faire pour rendre mon article étaient pas tout à fait la preuve que j'étais apte à faire ça. J'ai gagné ma vie plutôt comme serveur ou traducteur ou prof d'anglais ou des choses comme ça. Mais l'idée n'était pas de rester si longtemps. Et ensuite, j'ai démarré ce groupe Orchestre Rouge parce que j'avais très envie de faire la musique. Ça, c'est une longue histoire, pourquoi. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et le fait que ça a marché, entre guillemets, a fait que je me suis fait coincer ici plutôt. Et surtout avec Passion Father, où là, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais musicalement parlant. Et encore, je ne blâme pas les autres orchestres rouges si ce n'était pas assez bien par rapport à mon goût à moi. C'est moi-même qui cherchais ma voix. Et avec Passion Father, je l'ai vraiment monté pièce par pièce, quoi, et en sachant ce que je voulais.
Un, dos, tres, coño.
llames de tú. Fire and lust for your life. I'm hooked and took by your white light. White heat. Fuego. Now every time I close my eyes I see your face. White light flashing all over the place. Luz blanca, color blanco. Your light. Lucy Blanca, color blind. Your light flowing up my veins. Don't you know it's gonna drive me insane? I see your face, Lucy Blanca, all over the place. Your light flowing up my veins, burning up track like a runaway train. Your heat burning hell out of the hole in my soul. Lucy Blanca, que calor blanco.
Moi, je trouve que t'es assez dur avec Orchestre Rouge parce que je pense que l'air de rien pour un Américain qui débarque à Paris, donc a priori c'était conscient, tu voulais faire de la musique, mais très vite t'as trouvé des musiciens et des bons musiciens et t'as réussi à produire une musique quand on écoute les autres groupes français de l'époque, tu vois. C'est quand même, ça sort du lot. Donc, oui. Je pense que je sais pas si t'as eu de la chance ou si t'as eu ce talent, enfin le talent que t'avais toi et de réunir d'autres musiciens, d'autres très bons musiciens avec toi.
J'ai le talent de plus d'organiser. À l'époque, je dirais, j'ai eu ça, j'ai appris ça dans la politique, même le talent de contact humain, peut-être, et d'organiser les gens. J'étais organisateur. Donc, je m'en voyais même avant de chanter, je m'en voyais comme parolier et manager plutôt qu'autre chose d'un groupe, mais je ne m'en voyais pas comme chanteur. Et je pense que je ne suis pas né avec la voix du siècle, quoique maintenant je l'aime beaucoup, ma voix. Et ça fait longtemps que je l'aime, mais je ne l'aime pas l'entendre à cette époque-là. Il y a des gens qui sont nés avec ça. Moi, je pense que j'ai travaillé pour avoir la voix que j'ai, à la différence de certains génies qui ont tout ça à leur portée quand ils ont 20 ans et ensuite ça explose et 3 ans après, ils ne sont pas capables de grand-chose. Moi, c'est plus lent, mais à la limite plus efficace avec le temps. Et j'ai la prétention que chaque album que je fais est mieux que l'album précédent. Et je le pense vraiment, au fond de moi. On est d'accord ou pas avec moi, je le pense. Donc pour moi, chaque album de Passion Father était mieux que l'album précédent aussi. Et Passion Father, comme ce que je fais aujourd'hui, pour moi, était un énorme pas en avant par rapport à ce premier groupe qui pour un premier groupe était oui pas mal mais j'étais plutôt content que c'était plutôt Passion Father qui a percé sur le plan international et pas Orchestre Rouge puisque je trouve Orchestre Rouge c'est une musique qui date et ma prétention avec ma musique à moi depuis c'est que ça s'écoutera très bien dans 30 ans aussi et on pourrait pas obligatoirement les lier à une époque.
Et ce qui est très étonnant c'est que dans les années 80 souvent les productions sont tout de suite datées. Et les albums de Passion Fader, ça fait pas dater. Enfin, on n'a pas cette impression d'un album enregistré il y a plus de 20 ans. Quoi.
C'est tout à fait mon désir. Et pareil avec mes albums solo. Le propos, vraiment, je pense que le dernier est pas. On peut le placer dans beaucoup d'époques. Et j'espère pas une époque précise. Et c'est pas évident quand même d'en parler comme ça. Depuis toujours que je fais la musique ici, c'est un peu absurde parce qu'au fond, c'est la musique américaine. Souvent, très souvent, est normalement fait avec des Français. qui joue magistralement. Mon groupe actuel, peut-être c'est le groupe que j'aime le plus de toute ma vie. En plus, c'est trois quarts féminin.
Formation.
Oui, et c'est Tatiana Mladenovic à la batterie, Laureline Prudhomme à la basse, Bénédicte Villain, comme depuis toujours, au violon, ça, et Mathieu Texier à la guitare. Ex-hurleur, mais qui a pas mal joué avec moi, qui était le bassiste de l'album Overflow. Et tous ce groupe-là, c'est peut-être le meilleur groupe de ma vie. Et ce sont quand même les quatre autres, ce sont des Français, mais d'après moi, on fait toujours une musique américaine et énormément référentielle, et énormément de musique américaine qui existe depuis les années 50. Et ça se voit pas obligatoirement, ou ça s'entend obligatoirement pour une oreille française. Donc quelque part c'est un peu tordu, voire pervers de persister et signer en France, mais j'aurais du mal à redémarrer chez moi aux États-Unis, et ce serait comme redémarrer. Uh-huh. Je suis peut-être trop vieux et trop fatigué pour faire ça, et vu que j'ai un résultat artistique qui m'excite, qui me plaît, qui est à la hauteur de mes espoirs. Mais c'est par rapport au public auditeur. J'ai bien sûr des amis qui voient à quoi ça se réfère et qui sont davantage touchés par ma musique, je crois, grâce à ces références. Un truc de guitare qui est pour moi totalement pompé de, je sais pas, Big Brother and the Holding Company, ou une batterie Bob Dylan, ou un minuscule moment dans une chanson de Television. Je le sais et je pense que c'est enrichissant. Cette chose-là. Trois fois rien, sauf on invente des synthèses maintenant. Autrefois, je crois qu'on a inventé plus, mais peut-être je me trompe, mais tout est pas mal déjà inventé, en tout cas dans la musique rock'n'rollienne. Just another part of the news. It's
This is just a confusion. These men are the enemy.
De chansons, enfin, que tu fais, moi je les qualifie un peu d'épopées, tu sais, c'est des chansons où il y a, comme dans les morceaux de Dylan, il y a sept couplets, sept refrains, enfin des trucs un peu comme ça, des chansons très très longues.
Ouais.
Enfin, ça, c'est une, pareil, c'est une volonté. Je sais qu'il y a quelques adaptations aussi de tes romans, enfin, d'extraits de tes romans que tu mets en musique.
Ouais. C'est pas une volonté de faire des chansons fleuves, mais ça arrive naturellement parce qu'on a cette liberté comme. Je sais pas, peut-être Dylan, en musique connue en tout cas, c'est autrefois on écrivait des chansons folk qui duraient 30 minutes. Enfin, elle est de vallée, en montagne, on rajoutait des couplets, des sagas, etc. Et Dylan, c'est peut-être là-dedans. Et aujourd'hui, je le fais, mais c'est plutôt naturel de le faire. Je parle. Peut-être que c'est parfois un tort, peut-être qu'on peut trop parler, j'espère que je ne le fais pas. Parfois, je dirais par exemple, Nick Cave le fait parce que ça l'amuse. Il a, pas un morceau, il a des morceaux qui durent 15 heures. Je ne suis pas sûr que le contenu du, à niveau des paroles justifie tant de temps, mais ça l'amuse.
Un exercice de style, oui. Plus que une volonté.
C'est pour s'amuser, j'ai l'impression, qui est au bout d'un moment le propos le plus important peut-être. Mais un morceau qui fait un peu ça, c'est Here Comes the Golem. Moi je dirais c'est plutôt, aucunement slam rap, mais c'est un peu cet esprit-là. C'est vomir tout ce que j'ai envie de dire. Et parfois, on a trop mangé, donc on a beaucoup à vomir. Et le Here Comes the Golem, ça dure assez. Ça prend un certain temps pour cracher tous ces mots. Je les crache le plus vite possible, mais ça prend quand même du temps.
Issues in order, a throwaway thread says, give me your mouth or another cigarette. Love on a rooftop, high wire without an end, where the air is all water and the lovers all wet. Love on a rooftop, our cups running over as the rain makes us older and bolder and bolder and bolder. Carlsberg's a Ricard and 27 silk cuts into the night. She rolls down the slope, shot full of hope and all giddy, gaga and giddy with fight. So close to Saint-Eustache, we can spit on his spire, and his stained glass reddens in the shadow of our desire. On top of old Paris, where only heaven hovers higher, Lauren Bacall lights up, and we play with fire. Just put your lips together and blow. Love on a rooftop, sliding into the eaves where the shingles tingle and scrape up her knees. Love on a rooftop, sliding into each other as she lights up another and another and another and another. Just put your lips together and blow.
On sent pas mal de cynisme dans tes propos et puis aussi dans les chansons. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de cynique ou pas? Souvent, on peut dire que c'est un peu une insulte de dire à quelqu'un qu'on est cynique.
Je pense que c'est pas une insulte, mais je pense pas non plus que je sois si cynique que ça. Un brin blasé, peut-être. Uh-huh. Un brin fatigué, impatient. Plus qu'un peu colérique. c'est des propos d'un parolier gauchiste, mais ce qui me rend encore plus dingue, sans doute, et ça c'est aussi dans mes textes, c'est les conneries de la gauche. Si on avait mieux fait les choses, on aurait pu produire une meilleure société, une société plus juste, mais qu'on n'arrête pas de partir de marcher dans des combines et de dépenser énormément d'énergie, de courage et de jeunesse avec des idées débiles, pour prendre l'exemple le plus gros, le stalinisme. Ça, c'est vraiment malheureux, parce qu'ils ont cru que le PC tenait la parole juste et qu'il fallait suivre.
Il y a toujours peut-être une espèce de foi aveugle en un système, en disant que c'est... que tout doit marcher comme ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est aussi un peu comme ça. Je pense que tout le monde, on force un peu tout le monde à regarder dans la même direction, et finalement...
On le fait pas, je sais pas qui est le « on » dont tu parles.
Les médias puissants, les...
Oui, mais je pense que les gens ont un côté un peu mouton, et que même avec une chanson comme Tendre Jeunesse, qui c'est une critique d'un certain aspect de la jeunesse, ça ne m'impressionne pas quand les jeunes vont manifester et tout ça. Enfin, je voudrais que les gens qui manifestent, mettons contre le libéralisme, les altermondialistes de 20 ans, je voudrais que dans 20 ans, à l'âge de 40 ans, ce soit encore des socialistes. Et je suis à la limite... Je fais plus confiance à un jeune de 20 ans qui est inscrit au PS et qui essaie de détourner, d'améliorer le PS pour éventuellement produire un meilleur gouvernement en France. Pour moi, j'ai plus confiance que quelqu'un qui cherche, par exemple, briser des vitres se battre avec des flics. Parce que c'est pour moi un peu comme faire la fête. Et c'est souvent très passager. Et tu retrouves ces gens plus tard, ils sont plutôt apolitiques, voire libertaires de droite. En fait, c'est...
Mais tu tiens ce propos-là peut-être parce que tu as une certaine expérience. Tu n'aurais peut-être pas eu ce même point de vue-là à 20 ans, par exemple, si ?
Si, tout à fait. J'étais vieux avant d'être vieux.
Je crois il y a enfin pendant à peu près 2 ou 3 ans, dans les années 90.
Entre 89 et 95, 6 ans.
6 ans, ah oui. Ouais. Et alors tu disais à l'époque c'était pour ta santé, enfin entre autres.
Aussi, mais c'était pour amener la musique là-bas. C'était vraiment.
C'était aussi pour vendre, enfin pour essayer de transformer l'essai Passion Fodder.
Oui, quelque part. C'était une aventure, un peu comme si on avait encore 18 ans, quoi. Tout le groupe est parti et c'était pas facile à organiser ça. Il y a des attaches ici pour chacun, ainsi que les complications logistiques et tout ça. Et j'étais assez content de réussir ça. Tout le groupe s'est déplacé pour vivre à Los Angeles. Certains ont trouvé des petits boulots à droite à gauche. Et à la fin, ça n'a pas vraiment transformé l'essai, mais on a fait le 4e et 5e album là-bas. Et pendant un certain temps, on s'est bien amusé. On était comme des martiens à vivre dans ce monde, parce que même New York ou San Francisco, ça aurait été moins dramatique, mais Los Angeles, c'est vraiment très différent que Paris. Et c'était drôle. Et au bout de peut-être 2-3 ans, c'était moins drôle. Et au bout de 5-6 ans, j'avais vraiment envie de revenir ou de quitter Los Angeles. Peut-être pas pour revenir à Paris. Finalement, je l'ai fait parce que c'est une question de survie. J'arrêtais pas d'avoir du travail ici et des possibilités ici. Mais j'avais très envie de quitter Los Angeles au bout de 4-5 ans.
Et comment tu comparerais un peu le statut général, hein, le statut d'un artiste dans un pays que tu connais comme l'Amérique et la France? Parce qu'apparemment, c'est, je pense que l'artiste est quand même assez bien défendu en France, au niveau du statut, etc.
Oui, et je pense que politiquement, c'est mieux en France, culturellement, c'est mieux aux États-Unis. D'après moi, surtout en ce qui concerne la musique, on a l'aide d'un gouvernement, d'une ville, de n'importe quelle instance gouvernementale, culturelle, n'aide pas la musique. Ça aide peut-être l'apport de la culture dans les quartiers, comme on dit. Ça aide peut-être le social de faire des choses comme on fait ici en France, mais ça améliore peut-être aussi la situation économique des artistes, entre guillemets. Je dirais, c'est pas grâce à ça que nous avons eu Jimi Hendrix, Janis Joplin, Patti Smith, Richard Hell and the Voidoids, Chuck Berry, Bo Diddley. Toute la musique que j'aime n'est pas le résultat de ce genre de procédure, et pour moi la musique est à l'écart de ça. Donc j'en profite quand je peux, c'est plutôt grâce au théâtre que j'ai été intermittent à l'OKE. Je ne suis pas actuellement, mais le théâtre a été très bon pour moi. Le théâtre subventionné m'a aidé à vivre. Aussi, j'ai eu des bourses pour écrire mes romans, quelque chose que j'ai eu en France, que je n'aurais pas eu aux États-Unis. Mais pour moi, c'est aucunement grâce à ça que la qualité artistique est mieux. Et je pense vraiment au contraire. Donc je suis un peu en contradiction avec mes idées politiques quand je dis ça. Mais je dirais un esprit plutôt laissez-faire du gouvernement est aussi bon pour l'art. Et que c'est un discours un peu démagogue, mais je trouve que même dans la musique maintenant, il y a un côté très fonctionnaire. Des gens qui cherchent leurs heures. C'est plus compliqué de faire des concerts aujourd'hui avec tous les soutiens. Donc l'artiste est mieux considéré par le gouvernement et par la grande culture, peut-être en France, mais ça ne produit pas pour moi un meilleur art.
Like a woman, to burn like a sun.
tu considères par exemple que Passion Fodder, enfin ce que tu as fait, ça a été influent? Tu vois, c'est, enfin, je pense qu'il y a eu une influence en France.
Passion Fodder n'a jamais vendu grand chose. Le meilleur, le deuxième et le quatrième peut-être ont vendu chacun 8000 en France. Aujourd'hui c'est pas mal, à l'époque c'était vraiment pas grand chose. Voilà. Et peut-être 15 000 aux USA pour le quatrième. Donc à la fin, qui est rien aux États-Unis, qui pour moi était pas mal, mais qui était en gros rien. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est que le grand public n'a pas vraiment connu Passion Fodder. Donc Passion Fodder n'a pas été important ou une influence.
Une influence.
Oui, j'allais dire un. Une influence sur le public, mais par contre, je croise dans ma vie beaucoup, beaucoup de musiciens qui me disent « Ah, qu'est-ce que le troisième Passion Fodder ou même le premier Terre à Cola m'a touché quand j'avais 17 ans, j'écoutais ça en boucle, etc. » Louise Attaque, par exemple, ont été touchés par nous. Mais des groupes que j'aime, des groupes que j'aime pas, beaucoup sont venus me voir pour me dire que ça a compté pour eux.
Et c'est des groupes, par contre, qui, eux, par exemple, Louise Attaque, c'est des très très gros vendeurs de disques aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, peut-être que l'influence, elle est là. C'est-à-dire, c'est souvent ça, les groupes influents, c'est des groupes qui n'ont pas forcément vendu beaucoup, mais ils ont influencé des groupes qui, eux, ont beaucoup vendu.
Je te le fais pas dire. Parfois, je fais le calcul, je me dis, ok, ce serait pas anormal que ce groupe-ci vende 10 fois plus que moi, voire 100 fois plus, mais 1000 fois plus. Les écarts sont énormes. Et peut-être l'intervention de l'État pourrait éventuellement équilibrer ça, mais je crois qu'il faut laisser le capitalisme, pour ce qui est de la musique, pourri faire son travail. Mais c'est vrai, c'est une folie, les écarts entre ventes. Si, moi, je vends 3 000 et Louise Attaque vend 3 millions, ça revient à quoi? C'est un écart énormissime, et je suis, puisque je les aime bien humainement, content pour eux, mais les écarts, c'est, quand j'y pense, ça dépasse la raison, quoi.
Tu écris en français pour, enfin, je crois que c'est plus pour qu'on puisse comprendre, pour que les Français puissent comprendre tes textes, et c'est vrai que tu es dans une situation où le texte pour toi c'est très important, les lyrics c'est très important, et le fait que tu sois plus connu en France, qu'a priori on comprend pas tes textes, est-ce que c'est pas frustrant ou est-ce que c'est pas...
Si. Et tu as raison, je commençais à écrire en français sérieusement parce qu'il y avait des textes un peu blagues à l'époque d'Orchestre Rouge en français. Le deuxième album avait un seul, je crois. Mais avec Passion Fodder, j'ai écrit trois fois rien comme texte en français. Et c'était l'expérience justement américaine d'être compris par le public dans un concert. Des gens devant moi comprenaient, pas toujours parce que j'articule peut-être pas assez ou il y a trop de bruit autour de moi, mais grosso modo, le fait de vivre l'expérience de compréhension sur place alors que je disais les mots m'a fait un peu réfléchir, et je me suis dit au bout de, après 15 ans d'emploi de votre langue, que peut-être je devais essayer sérieusement d'écrire des textes en français pour avoir le plaisir de cette communication immédiate. Donc j'ai eu des choses comme « Chère maman, je suis mort à Paris » ou un peu plus compliqué « Prière profane » par exemple, de deuxième solo. Et c'est toujours minoritaire parce que je trouve que j'ai plus de mal à le faire. J'ai plus de mal à écrire en français et j'ai plus de mal à chanter en français aussi.
C'est une langue difficile à faire sonner, tu vois, même pour les Français. Alors.
Peut-être c'est ça, et pour un étranger qui a encore son accent, ça fait que ça prend plus de temps au studio aussi. Je veux pas... Si on entend l'accent, ça va, mais je voudrais que l'accent n'empêche pas les gens de comprendre ou même d'écouter. Donc il faut quand même bien soigner ma manière d'articuler et de prononcer les mots que je chante. Et ça prend un peu plus de temps pour chaque prise de voix en français que les prises de voix en anglais. Mais il m'arrive parfois d'écrire en français pour le plaisir aussi. Mais c'est vrai, c'était plutôt par souci et désir de communiquer.
ladder.
Des vidéos, j'étais retombé sur celle de TV6, je sais pas si tu vois, avec Alain Menval.
Oui, oui. C'était tourné en direct, donc on, oui. J'adore ça parce qu'on peut vraiment déconner et personne ne peut rien changer.
C'était quand même une époque où il y avait un peu de rock sur les chaînes, oui, françaises. On se rendait peut-être pas compte à l'époque que c'était presque la fin, hein, parce qu'après... après, quand M6 est arrivé, c'était pas vraiment pareil, et ouais, c'est vrai que...
Et Manval, j'aime beaucoup. Et il a vraiment, pour moi, c'est un peu n'importe quoi son parcours, mais au début, il est touchant. Humainement, il était très touchant. Donc, c'était pas pour me manquer de lui. J'étais un peu gêné après, puisque c'était comme si je. Mais l'émission était minable. C'était une émission débile qui passait des trucs débiles. Après nous, il y avait Partenaires Particuliers.
Oui, j'ai vu.
Par exemple.
Enfin, de passer les Partenaires Particuliers après toi, c'était...
Mais c'est l'absurdité. À la limite, c'est mieux qu'on passe pas à la télé, qu'il n'y a pas de rock à la télé, entre guillemets, puisque c'est ridicule, quoi. C'est, des trucs comme ça, c'est totalement ridicule. Et il y avait du whisky dans les loges. D'accord. Et il n'y avait pas d'interview prévue. Donc, si on le regarde bien, on commence à quitter la scène après d'avoir un autre moment de déconnage. Et c'était plutôt amusant. Et les gens nous regardaient un peu dans la salle comme on était des martiens. On commençait à partir, il m'a rattrapé. Donc j'étais complètement léger et bourré et joyeux plutôt. Et l'absurdité de la situation faisait que j'étais capable de dire n'importe quoi.
C'est vrai que, comme je disais, à l'époque, il y avait encore un petit peu de rock à la télé. Il y avait quand même des gens, quelques journalistes, qui essayaient peut-être de faire passer leur coup de cœur des groupes qu'ils aimaient. Aujourd'hui, ça a l'air beaucoup, beaucoup plus... les choses sont beaucoup plus fermées. Et puis aussi, je pense que la scène, c'est vraiment ouverte. C'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être qu'à l'époque où tu faisais Orchestre Rouge, il y avait peut-être une cinquantaine de groupes à Paris. Oui. Aujourd'hui, il y en a peut-être 500. Oui. Et donc, faut faire le tri, quoi.
Oui. Il n'y a peut-être pas moyen de faire le tri, à mon avis, puisque je suis trop à l'écart. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, si je peux faire un commentaire sur la situation actuelle, je dirais que les qualités en général pour moi, sans être, c'est pas mon monde en gros, le chanson français ou même le chanson français éclairé ou même le rock français, ça n'a jamais été tellement mon monde, jamais été là où je j'écoute des choses qui me donnent juste envie d'écouter Johnny Thunders and the Heartbreakers à Max's Kansas City en 79. Souvent, c'est ma réaction. Je veux des guitares, je veux l'électricité, je veux du cru, et je veux pas de discours non plus, même si j'en fais à ma manière. Je veux prendre ça dans la poitrine et que ça me donne la chair de poule, etc., etc. Je veux une ambiance un peu punk, CBGBs, c'est un cliché, mais c'est vrai, c'est ça qui me fait vibrer encore aujourd'hui. Et même ce que j'essaye de produire musicalement avec ma bande, c'est un peu ça. Et c'est pas des véhicules pour exprimer ma poésie et mes idées politiques. C'est vraiment une claque que j'essaye d'infliger, guitaristiquement parlant, et bien sûr avec la voix aussi. Mais tout cela dit, même si je me considère que pas mal à l'écart, donc c'est bizarre de pratiquer cette musique en France, je trouve que le niveau en général par rapport aux années 80 et le rock français des années 80 est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Beaucoup plus d'intelligence et surtout une des clés, beaucoup plus en rapport direct avec vos propres racines. Si j'aime ou j'aime pas, c'est un détail, mais un groupe comme les Têtes Raides a ouvert les portes à un retour vers vos propres racines, tout en étant touché un peu par le cru du punk et le bruit du rock. Des groupes comme ça sont revenus vers Brel et vers Brassens, des choses comme ça, et la chanson française traditionnelle qui fait qu'il y a quelque chose de plus juste dans le rock français ou la chanson éclairée française aujourd'hui qu'il y avait autrefois. Et que même un groupe comme Noir Désir, au fond, c'était un peu comme un bon groupe de rock français qui imitait des groupes américains, qui avec le temps a pris sa propre identité, mais ça restera... Même avec un des plus grands guitaristes du monde, comme Serge Tesoguet, ça restera quelque chose de assez américain.
Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Moi, je suis à peu près perçu. Enfin, moi, j'aime beaucoup le premier EP, hein, vraiment, de Noir Désir. Je trouve que c'est peut-être le son de départ du groupe.
Oui. Ils avaient beaucoup de niveaux déjà à l'époque. Je pense à Serge en particulier. Oui. Mais en tout cas, ça, c'est. J'aurais toujours une distance par rapport à cette musique-là et par rapport aussi à ce qui se pratique aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de qualité. J'entends des textes moins niais qu'il y avait beaucoup autrefois. J'entends aussi une richesse au niveau de l'instrumentation, des arrangements et tout ça. Même si ce n'est pas ma tasse de thé, comme on dit, un jeune Français qui s'intéresse à cette musique-là est mieux servi aujourd'hui qu'il a 20 ans.
Is just a martini trace and your laughter. Your laughter is all Bordeaux's bliss. Once upon a time before the vodka, for the beer and the bourbon and the binges, there was a girl on a mission full of fire and ambition, building a book to blow the gates from the hinges. Yes, I remember how that little wolf howled, how her yellow eyes shined with red conviction. She said, I want no happiness until I harness the power and the glory of fiction. She said, a grace in her heart and her brain, we're all ink blasting after paper. There was just a little hole in the dam to blow and the words would flow. Flow like a river from their maker. Forsaking faith and poetic incisions. Now her grace and her heart and her brain are only alcohol, vapor, and visions. Yes, all that's left of my little wolf's soul is the morning after hair of the dog, and the sound and the fury of her muses drowning booze and out the bottles. Yeah, the bottles, my baby's own. Where I love you, darling, till you've drunk an ocean, 'cause I know no other way. Yet if you had a notion to climb up on the wagon, we'd be riding clouds to heaven every day. You're all I got and you're all I want, and I'll love you till death do us part. But if you ever found a way to dry out someday, I swear all love would shine like fine art.